14 octobre 1996, cours de Rav Eman au centre du Frénois à Paris.
Les poutres, les solives de notre maison sont faites de cèdre. Raïtez-nous nos lambris ou nos portes, verotim, en cyprès. Alors, maintenant on va essayer d'expliquer et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Ici, c'est la réponse au verset là-dessus. On avait vu Inach Yafa Rayati Inach Yafa. Ici, c'est la réponse du clan Israël à Kadosh Baruch Hu. Incha Yafe Dodi Afnaim. C'est toi, Yafe qui est beau, Afnaim et qui est agréable. Af arsenu ranana, on a dit notre couche est fraîche. La Gemara, dans deux endroits, dans le traité de Yuma et dans le traité de Tanit, explique qu'il s'agit ici du Beit Hamikdash. Ces deux versets parlent du temple tel qu'il était construit à Yerushalayim. Arsenu, ce serait la couche, ça veut dire l'endroit de rencontre entre Dieu et le peuple juif. Ranana, on va voir pourquoi fraîche. Korod Batenu, il s'agit du Beit Hamikdash, ça c'est notre maison. Arazim, le Erez, c'est l'arbre le plus haut et le plus fort. Korod Batenu, parle des solides, c'est-à-dire ce qui tient. Et réalité nous berotim. L'intérieur est fait de berotim, le cyprès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est clairement indiqué, avant qu'on voit dans le détail, que le Beit Hamikdash, le temple, s'appelle Arsenu. De même que Erès, c'est le point de rencontre dans le couple entre un homme et une femme. De même, le Beit Hamikdash, c'est le point de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Vous savez que nos Chachamim nous disent que Esser Kedushot, il y a 10 Kedushot différentes, 10 saintetés différentes, l'une plus élevée de l'autre. Eretz Israël a plus de sainteté que le reste du monde. Yerushalayim a plus de sainteté qu'Eretz Israël. La montagne du temple plus que Yerushalayim. Le temple plus que la montagne du temple. L'intérieur plus que l'extérieur. Ce qu'on appelle le Echal. La partie intérieure du temple. Et ensuite jusqu'au Kodesh HaKodashim. C'est intéressant de remarquer que la rencontre entre Dieu et le peuple juif s'exprime en termes de Kedusha. De même que Eretz Israël par rapport aux autres pays s'exprime en termes de Kedusha. Kedusha en hébreu, qu'on traduit normalement en français sainteté, qui ne veut pas dire saint ou pas saint. Kedusha, ça veut dire réservé. Il faudrait comprendre cette notion de réservé, réservation. Quelqu'un qui est réservé, ça veut dire quelqu'un qui ne touche pas à tout ce qu'il pourrait toucher, qui ne profite pas de tout ce qu'il pourrait profiter, qui est séparé. C'est pour ça que le Ramban explique Rashi aussi que Doshim Tiou, Perushim Tiou, ça veut dire réservé, séparé, à part. Alors c'est intéressant de remarquer que cette rencontre, elle se fait selon la notion de Kedusha. Vous savez que il y a une difficulté qui est celle de la réunion de la neshama et du gouf, l'âme et le corps, le divin et l'humain, l'intersection ou la réunion des deux, c'est quelque chose qui est difficile de définir. Quel peut être le rapport entre le divin et l'humain? C'est ça qu'on va essayer déjà de cerner quelques notions dont tout le monde entend parler, mais qui ne sont jamais très claires. L'intersection entre l'humain et le divin, chez l'homme, on l'appelle, grosso modo, la neshama. En français, on traduit ça par âme. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, âme. Quelquefois, on l'appelle par nefesh, une personne, le shivim nefesh, yardo avotenu. Nefesh, c'est la personne. En hébreu, la neshama, elle se divise en trois. Nefesh, ruach et neshama à proprement parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a l'air très compliqué, mais c'est très facile. Il y a différentes façons d'expliquer ce qu'on appelle les trois niveaux de l'âme. Le nefesh, c'est le plus bas. Le ruach, c'est le milieu. Et le plus haut, c'est ce qu'on appelle neshama. Si on essaye étymologiquement de retrouver la racine de ces mots-là, on va voir que neshama vient du mot neshima, inspiré. Vayipar be'apav nishmat raim, un souffle. Ça, c'est neshama. Ruach, c'est aussi un souffle. On traduit normalement ruach, le vent. Quelquefois, on traduit le côté aussi. Nefesh, vous l'avez dans le verset qu'on a lu la semaine dernière, Vayi Nafash. Shabbat Vayi Nafash. Lorsque Dieu créa le monde, le Shabbat Vayi Nafash. Normalement, on traduit ça reposer. La Kabbalah, on a l'habitude de traduire ces trois notions par une parabole. Vous avez tout de suite compris que le ruach, c'est ce qui est au milieu. Le ruach, ce qu'on appellerait le vent. En français, on traduit normalement l'esprit. Chaque fois que dans le prophète, il y a marqué ruach, le mot ruach, on le traduit par esprit. C'est pour ça que certains ont traduit le ruach HaKodesh par Saint-Esprit. C'est ce qui fait la possibilité de la rencontre de la neshama et du nefesh. On va prendre l'exemple qui est inscrit dans les livres de Kabbalah, qui est celui de celui qui souffle le verre. Lorsque vous soufflez le verre, vous allez faire une bouteille. Alors il y a un souffle. Cette inspiration, ça s'appelle neshama. Ça permet au verre de grandir. On va appeler ça le ruach. Ce qui resterait à l'intérieur de tout ça, on va appeler ça le nefesh. La forme qui a été donnée par le fait d'avoir insufflé de l'air. Vous comprenez pourquoi le nefesh vient du mot vaïnafash, nofesh, ça veut dire se reposer. C'est ce qui reste de ce qui a été insufflé. En français, on traduirait nefesh par la personnalité. On appelle ça le moi aussi, ou le je, comme vous voulez. Ça, c'est le nefesh. Du mot vaïnafash, ce qui reste, ce qui est reposé. Ce qui voudrait dire neshama, ce qui est l'inspiration, Nous, nous traduisons ça habituellement par la volonté divine qui préside à la création de l'homme. Vaiparba pav nishmatraim, il a insufflé un souffle de vie. Ça veut dire qu'il a voulu que je vive. De cette volonté, il me reste quelque chose qu'on appelle le nefesh. La façon dont ça s'articule chez l'homme, l'intermédiaire, on appelle ça le roi. Dans le sens, ce qui se déplace. Le mot roi en hébreu, vous le retrouvez dans le mot orar. Orar veut dire le chemin. Oréar veut dire l'invité, l'étranger. C'est-à-dire ce qui permet de se déplacer ou ce qui se déplace. Cette jonction qui peut exister entre la volonté divine qui préside, qui détermine la vie d'un homme et ce qu'il est, ce qu'on appelle le nefesh, ça peut exister par l'intermédiaire de ce roi. Ça qu'on traduit ça en français, l'esprit. On a besoin d'un point de jonction, mais ce point de jonction, il signifie le mouvement. Ce qui veut dire que la jonction entre le divin et ce qui est vulgaire, ce qui est commun, entre le spirituel et le matériel, c'est une jonction qui est en déplacement. Je peux la percevoir. Elle existe. Elle est perceptible. Mais en soi, ça n'est qu'un point de jonction. Le point de jonction entre le peuple juif et la présence divine et la réalité de Dieu dans ce monde, c'est le Beth Amigdash. Le Beth Amigdash lui-même, c'est le Nefesh. C'est-à-dire qu'il y a une existence, il y a quelque chose qu'on voit, qui existe. C'est ce qui est déposé après que la volonté divine rentre en action. Ce point de jonction, il s'appelle dans le langage de Shir HaShirim Arsenu. On a déjà expliqué une fois que cette jonction, elle n'est que perceptible, mais on ne peut pas la cerner. C'est pourquoi dans le langage des Chachamim, la rencontre entre le divin et le matériel, c'est une chose qui s'appelle Pélé. Comme on dit, Oumafli la Asot. C'est quelque chose d'incompréhensible, extraordinaire. Lorsque l'ange est apparu à la mère de Shimshon et que son mari lui a demandé comment tu t'appelles, il a dit mon nom est Peli. Pélé, extraordinaire. Nous-mêmes, lorsqu'on veut essayer d'avoir une perception de quelque chose qui est plus haut que nous, qui est divin, on n'a pas d'autre traduction, on n'a pas d'autre mot que le mot esprit, roi. Et encore l'esprit, on dit, et mon esprit soufflera. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une perception des choses. C'est pas quelque chose que je peux cerner. Cette perception des choses, cette rencontre, c'est le Beth Amigdash. et elle se singularise par le Nes, par le fait que dans le Beit Hamikdash, tout était extraordinaire. C'est ça que nos Chachamim nous disent, à Sarah Nissim, il y avait 10 miracles tous les jours dans le Beit Hamikdash. Une des choses qu'on pouvait voir, quelqu'un qui arrive à Yerushalayim, il voyait que la fumée qui se dégageait de l'autel où on brûlait les corbanotes, où on brûlait les sacrifices, elle ne dépendait pas du vent. Elle était toujours droite. Si on fait le compte du nombre des Bnei Israël qui étaient dans le Beit Hamikdash, à chaque fête, et qu'on regarde la superficie du Beit Hamikdash, les deux choses ne collent pas ensemble. On appelle ça « Omdim Tsufufim » ou « Mishtachavim Rebachim ». Même s'ils pouvaient être l'un à côté de l'autre, Tsufufim, l'un contre l'autre, pour se prosterner, il fallait de la place. Cette place existait. Où est-ce qu'elle était, on ne sait rien. Il est intéressant de comprendre que cette relation, le Shir HaShirim l'appelle Arsenu. C'est de comprendre pourquoi. Le point de jonction qui peut exister entre l'homme et le Créateur, se matérialise à la naissance. Les Chachamim nous disent « Shlosha shutafim ba'adam ». Il y a trois associés dans la création de l'homme. Qui dit création dit créateur. On peut le percevoir ou ne pas le percevoir, on peut le croire ou ne pas le croire. Ça, c'est quelque chose qui est posé chez nous. C'est d'ailleurs sûrement toute la raison pour laquelle la Torah commence par Bereshit. Vous savez que Rashi dit sur la paracha de Bereshit, il y a deux raisons pour laquelle, en tout cas deux pshatim dans le mot Bereshit. Vous savez que le mot Bereshit en vérité est impropre. Parce que le premier verset est difficile à traduire. Bereshit bara Elohim, en vérité, la traduction littérale, elle est au début, au commencement, bara, il a créé Elohim, Dieu, et ta Shamaim et ta Aretz. Et tout d'un coup, on vous parle de Shamaim et Aretz. Et voilà comment était la terre. Donc on n'assiste pas à cette création. Donc le mot Bereshit voudrait dire, tout au début, il a d'abord créé le ciel et la terre, mais là on va te raconter à partir de maintenant. Mais le mot Bereshit ne veut pas dire ça. Parce que Bereshit c'est toujours le début de. C'est un état construit. Le début de la royauté, on dit Reshit Mamlechet. Voilà les exemples que donne Rashi. Le début de. Si on voulait dire tout au début, au commencement, on aurait dit Vitrila. Rashi nous dit En Amikra Zeomer El Adar Sheli. Rachid dit, quelle est la signification de ce mot Bereshit? C'est que Bereshit, c'est vrai que c'est à traduire littéralement au début. Et en vérité, le premier verset de la Torah, il faut le lire comme ceci. Au début de la création, par Dieu du ciel et de la terre. Pas au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Au début de la création, par Dieu du ciel et de la terre était Tohu Vavohu Vechosher Al Pnei Tehom. Voilà comment il faut comprendre. Mais finalement, ce n'est pas marqué comme ça. C'est comme ça qu'on va le comprendre. Pourquoi ça n'a pas été marqué comme ça? Rashi nous dit pour deux raisons. Il dit parce que le mot Bereshit, tu vas le comprendre et tu dois dire que c'est avec une intention, avec un début, avec une dynamique que le monde a été créé. Be avec. On ne crée pas sans intention. On ne crée pas sans projet. Bereshit, c'est avec ce projet-là qui s'appelle Reshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà comment il faut comprendre le verset. Alors c'est qui ce Reshit? Rashi dit ces deux choses. C'est Israël, Shenikrou Réchit, le peuple d'Israël qui s'appelle Réchit. Et c'est la Torah, Shenikret Réchit, et c'est la Torah qui s'appelle Réchit. Réchit, quand on dit le début, ça veut dire le but des choses. Vers quoi on tend ? Ce qui a présidé à la création. Quelle est l'idée qui soutient cette création ? Tu dis c'est deux, Israël et la Torah. En vérité, tout le monde sait que c'est faux. Parce que la seule chose qui a présidé à la création, c'est Dieu lui-même. Le seul but de la création, c'est Dieu lui-même. Israël et la Torah, ce sont des moyens. Pourquoi ? On le sait, puisque les Pirkei Avot se terminent par le verset qu'on a déjà cité souvent. Kol Hanivra Lishmi, c'est un verset dans le prophète Isaïe. Velichrodi, tout ce qui a été créé Lishmi, pour mon nom. Velichrodi, pour ma gloire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelque chose d'extérieur en face de Dieu qui pût être le but des choses. J'ai quelqu'un en face de moi, je lui apporte quelque chose, voilà mon intention. Mais il n'y a rien. S'il n'y a rien, tu pourrais dire c'est en vue d'eux. Mais en vue d'eux, c'est parce que tu as décidé que c'est en vue d'eux, donc c'est toi le vue d'eux. Ah, le reste, c'est le moyen qui te permet d'avoir un but dans cette création. Et c'est un moyen que tu as créé toi-même. Donc le vrai but, c'est Dieu, c'est pas l'homme. Ça, il faut très bien le comprendre. Mais il n'en reste que le moyen. Quelle est l'intention dans la création que nous voyons ? C'est où la Torah ou le peuple juif ? Pourquoi est-ce que c'est le peuple juif ? La Torah, on comprend. Parce que la Torah, c'est ce qui nous permet de faire la jonction entre l'intention divine et ce que l'homme doit faire sur terre. La Torah, c'est Milashon Ora. Ora, ça veut dire enseignement. Révélation. Qu'est-ce qu'on veut de moi ? C'est aussi un point de jonction. Israël aussi. Parce que la présence divine, elle ne peut être révélée qu'à l'intérieur et par l'intermédiaire du peuple juif. Pour l'instant, on ne parle pas de l'unicité. On ne parle pas du message d'Abraham Avinu. On parle de toute l'existence du peuple juif. C'est-à-dire que nous devons comprendre que tous les événements dans l'humanité, l'histoire du monde, elle passe par un point qui, si c'est la Torah en tant qu'expression de la volonté divine, c'est en tout cas Israël en tant que point de jonction entre le reste du monde et Akadosh Baruch Hu. Doucement, vous allez comprendre pourquoi. Arsenou, lorsqu'on parle de ce point de jonction, on en parle en tant que lieu de création. Parce que la perception que j'ai moi du Créateur, elle ne peut exister que par le fait que moi je suis incapable de créer. Parce que vous savez que naturellement je ne peux que dissocier deux choses. Plutôt une chose, je la dissocie en deux. Je peux associer deux choses. Je peux manipuler les choses. Mais je ne sais pas créer. Je ne peux rien créer qui n'ait été créé. C'est-à-dire que j'ai une perception d'Akadosh Baruch Hu par le fait qu'il est créateur. Sinon, j'en aurais pas. pour ça qu'on me raconte toute l'histoire de la création. Pour me dire que la définition d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de moi, c'est pas celui qui me demande quelque chose, c'est pas celui à qui je dois faire plaisir, c'est pas celui dont on est obligé de faire la volonté, c'est le Créateur. À partir du moment où il est Créateur, tout le reste va en découler. Et plus loin que ça encore. Ce nefesh, la personne que nous sommes, on va dire la créature, c'est la seule qui peut avoir une perception du Créateur. C'est le réchit, ce qu'on appelle le réchit, le but, la raison d'être. Il est donc évident que si le peuple juif, c'est le point de jonction entre la volonté divine et ce qui se passe comme événement dans le monde, lui qui étudie bien l'histoire du peuple juif, il pourra comprendre que les mouvements, que ce soit ceux de la pensée, ou que ce soit ceux du social, ou que ce soit ceux même de la science, a toujours un rapport avec un point de jonction qui est le peuple juif. Si vous allez encore plus loin, vous verrez que ça a toujours rapport avec un point de jonction qui aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus le Beth Amigdash, se retrouve en Eretz Israël. Mais la Kedusha la plus grande, c'est celle du Beth Amigdash, du Temple. C'est-à-dire que ce point de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, personne dans l'histoire n'a jamais réussi à l'avaler. Et il intéresse même des gens dont on penserait qu'ils ne devraient en avoir aucun intérêt. Alors maintenant, on va essayer de comprendre notre verset. Avant, dans les versets d'avant, on parlait de Dieu qui s'adresse au peuple juif. Maintenant, c'est le contraire. Incha yafe dodi afnaim. Yafe pour Akadosh Baruch Hu, c'est difficile à comprendre. Beauté. Si moi je regarde quels sont mes critères des choses qui sont belles, il y a quelque chose qui est tellement subjectif que ça ne peut venir que de moi. Beau, ça veut dire que ça fait appel à une notion. Qui fait appel à elle-même ou à des souvenirs. Est-ce qu'un enfant peut savoir ce qui est beau, ce qui ne l'est pas, si on ne lui montre pas? Ou peut-être on va lui montrer toujours ce que l'on trouve moche, peut-être qu'il le trouvera beau. Ça veut dire que Yafé, ça fait appel à des repères. Ou alors, c'est selon un certain étalon. On a décidé universellement, ce ne sont pas mes repères à moi, c'est de repérer universel que ça c'est beau. Qu'est-ce que nous trouvons beau? Quand Dieu parle du clan d'Israël et dit que le clan d'Israël est beau, comme on a vu dans les versets avant, c'est très compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on connaît la référence. La référence c'est la mitzvah de la Torah. La référence c'est le comportement du peuple juif. Mais Dieu, beau, il y a marqué Af Naïm. Naïm, on comprend déjà mieux. Naïm, ça veut dire agréable. Noam. C'est aller à la rencontre d'eux. Déterminer Dieu par un rapport qui existe entre lui et l'homme, on comprend. Quelqu'un va à ma rencontre, il est gentil avec moi, il est souriant, il est agréable, c'est naïf. C'est un rapport, je comprends. Mais de dire que Dieu est beau, c'est difficile à comprendre. On est donc obligé de croire que lorsqu'on dit que Dieu est beau, ça veut dire qu'il obéit à certaines structures, et c'est l'obéissance à ces structures-là qui sont sa beauté. De même que nous avons des structures mentales qui font qu'on estime qu'une chose est belle et une chose n'est pas belle, parce qu'il y a un certain équilibre dans les choses qui font que c'est beau, et qu'on est sensible à cet équilibre, ou il y a certaines teintes qui font que on retrouve des repères et qui font qu'on arrive à les mesurer à nos structures. Nous aussi nous jugeons la conduite d'Akadosh Baruch Hu, ou nous aussi nous jugeons ce que nous percevons de lui selon des structures qui existent chez nous. On ne peut pas faire autrement. Donc, bon, je voudrais dire ici, ça obéit exactement aux structures qui sont les structures qui collent, qui marchent, et qui sont les nôtres. Maintenant, ça pourrait ne pas être naïf. En plus, c'est naïf. Ça va à mon encontre. Mais c'est pas beau parce que c'est naïf. C'est quelque chose qui peut être dur, peut être difficile à vivre, peut être impossible à vivre, et ça peut être beau quand même. Les deux notions. Alors comment est-ce qu'on pourrait dire, surtout si on voit l'histoire, d'un Kadosh Baruch Hu, je peux tout dire, mais beau. Et là-bas, ça veut dire que l'image que j'ai de lui, elle a des résonances structurelles chez moi qui font que je trouve que ce que je perçois de lui, c'est beau. Ici, c'est pas seulement moi qui fabrique cette idée de Dieu, c'est pas moi qui l'ai fabriquée. Mais c'est pire encore. C'est l'idée qu'il me donne, je la retrouve chez lui. Parce que cette idée-là, je l'ai de lui. Alors comment puis-je dire qu'il est beau? Non, je peux quand même. Parce que ça répond aussi à l'attente que j'ai eue des choses. On va essayer d'expliquer. Chacun a une idée personnelle de Dieu. Il y en a un qui le voit comme quelqu'un qui va lui reprocher éternellement ce qu'il est. L'autre qui le voit comme quelqu'un qui l'encourage. Le troisième comme quelqu'un qui est le maître de tout. Chacun a son idée. Il est possible qu'à chacun s'en ait une autre idée. Pour le juif, Dieu correspond toujours à l'idée qu'on avait exactement de lui. C'est Mistom qui a inventé cette idée. Mais il correspond toujours. Alors vous allez me dire, bon, il y a peut-être des périodes dans l'histoire où on ne trouve pas que ça correspond. Le reste, que quelquefois on peut avoir des questions aussi. Une des preuves de la création, elle est donnée par le Bichaïm de Vologine dans le Nefesh HaChaïm. Il dit, comment est-il possible que quelque chose soit le fruit du hasard et que je m'y adapte si bien que si on m'enlève tout ce qui est autour de moi et qui n'a aucun rapport avec moi, puisque tout vient du hasard, je ne conçois pas la vie sans cela. Elle donne un exemple. Comment est-ce que on a des critères et des structures de comparaison pour savoir ce qui est beau? Quelqu'un voit un arbre, il peut dire ça c'est beau, ça c'est moins beau, ça c'est plus beau. Mais il va trouver un rapport entre la façon dont il voit l'arbre et au moins, hein, il ne trouvera pas que c'est inadapté à lui. La fleur, la même chose. Tout ce qui se trouve sur cette terre, un homme va trouver le rapport qu'il a avec, que ce soit un rapport du fait qu'il puisse en tirer sa subsistance, du fait que il soit protégé, du fait qu'il puisse agir par l'intermédiaire de cette matière-là. Il n'en reste que son rapport. C'est un rapport qui, pour lui, est non seulement indispensable, évidemment, mais que lui ne trouve pas qu'il y aurait d'autres rapports possibles. Si on vous avait dit, voilà, voyez un tableau, et le ciel, au lieu d'être bleu, est rouge. Alors on peut très bien se dire, bon, l'artiste l'a vu comme ça. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais est-ce que tu t'imagines vivre avec un ciel rouge? On va dire non, on ne s'imagine pas. Pourquoi? Parce que notre perception de toutes les couleurs et de tout serait différente. Tel qu'il est, c'est bien. Le soleil, il aurait pu être bleu foncé. Toutes les structures sont des structures que je trouve adaptées. Et même si chacun les voit autrement, il est possible que chacun les voit autrement. Il les retrouve toujours adaptés. Et après un vol originaire, tu te lèves le matin, tu trouves ta nourriture, tu arrives à respirer, tout est fait pour toi. Il est impossible que le hasard ait produit quelque chose et que tu apprécies ce hasard au point que tu ne puisses pas te passer du fruit de ce hasard. Parce que tu t'es pas adapté à ce hasard. Tu es adapté. Je peux donner 1000 exemples scientifiques qui prouvent que nous-mêmes, non seulement nous sommes adaptés aux couleurs, mais que si les couleurs changeaient, on ne pourrait pas vivre. Les couleurs, c'est la façon la plus facile de le percevoir. Mais c'est dans la nourriture. C'est dans tout ce qu'on a comme action et tout ce que le monde a comme interaction vis-à-vis de nous. Dans tout, c'est comme ça. Et Abraham Avinu, en vérité, il n'a perçu Dieu qu'en tant que créateur. Il n'a pas perçu plus. C'est le raisonnement qu'il a fait. Il a dit, tout marche. Tout est adapté à moi. Mi bara et élevé. C'est pas venu comme ça. La perception que j'ai de Dieu, c'est la perception du Créateur. Moi, je m'adapterai à cette idée de plus en plus. Et je trouverai que non seulement il remplit bien son rôle, mais que c'est adapté aux structures dont j'ai besoin. Imaginez-vous que l'idée de Dieu qu'on est, c'est pas lui qui est créé. Lui, c'est celui qui est venu après. C'est inadapté. Tu dis, oui, mais tu as inventé quelque chose, alors c'est normal que ce soit adapté. C'est vrai. Ça veut dire que l'idée de Dieu qui m'est venue par l'intermédiaire de la création, elle est adaptée. Je peux la justifier à chaque instant. Ça, c'est ce qu'on appelle Yahvé. Ça répond aux structures qui sont les miennes. Dois-tu ces structures de lui? Mais ça répond quand même. Si la création me donnait une idée de justice et Dieu une idée d'injustice permanente, il ne serait pas Yahvé. Mais la création me donne une idée de justice. Pourquoi? Parce que les choses collent. On ne voit pas d'injustice dans la création. On voit l'injustice chez les hommes. On voit l'injustice dans le comportement. Mais on ne voit pas d'injustice dans la création. On n'a pas remarqué qu'il y a des victimes dans l'ordre des choses. Il en est de même de toutes les perceptions qu'on a. C'est pour ça que lorsque HaKadosh Baruch Hu dit sur le peuple juif qu'il est Ina Yafa Rayati, alors le peuple juif peut aussi répondre Inha Yafe Dodi. Parce que tu corresponds exactement à l'idée que je me suis fait de toi. Je n'ai jamais vu dans l'histoire, ou je n'ai jamais vu dans la perception que j'ai des choses, que Dieu ne colle pas l'idée que j'ai de lui. Mais qui c'est qui t'a dit que c'est Dieu qui le fait? Ça, c'est un autre problème. Mais lorsque j'ai terminé que c'est lui, ça colle exactement à l'idée que j'ai. Je dis encore une fois, le fait qu'il y a des choses que je ne comprenne pas, c'est une question de goût. Pour les gens, ça fait que c'est pas yafé, et pour les autres, ça fait que c'est beaucoup plus yafé. On ne doit pas rentrer dans ce débat-là. Encore une fois, le fait que je ne comprenne pas certaines choses, ou que je trouve que certaines choses sont au-dessus de mes possibilités, de mon entendement, ça ne veut pas dire que ça n'est pas yafé. Au contraire, c'est peut-être ça tout le yofi. Tout dépend des goûts et des couleurs. Af Naïm. Naïm, il était évident que Rachel allait traduire tout de suite. She'avarta al-pesha'ay ve'ishreta shrinatra le'tochen. Lorsque Dieu fait résider, on va essayer de comprendre l'idée de Shrina. Vous savez que Shrina vient du mot Shachen. Shachen, c'est le voisin. C'est-à-dire, chacun sait que le monde a un voisin. Qui est ce voisin? C'est Dieu. Le fait que j'arrive à repérer le voisin, on appelle ça la Shrina. C'est tout. C'est le voisinage. Où est-ce que je repère le voisinage? Dans le point de jonction. Et c'est pour ça que c'est ça Israël, c'est ça le Beit HaMikdash. Ça c'est le point de jonction. Les gens se sont toujours demandé, comment se fait-il qu'après 2000 ans d'exil, le peuple juif soit toujours également attaché à sa terre? Si vous me dites que c'est parce qu'il s'est passé certaines choses, le judaïsme, lui, n'attache aucune importance à ces événements-là. C'est-à-dire que chez nous, le lieu saint, c'est une notion qui n'existe pas. Il s'est passé une certaine histoire. Redonnez la preuve. Quel devrait être le lieu le plus saint pour le peuple juif? D'abord, on devrait commencer par le mont Sinaï. N'importe qui peut aller au mont Sinaï. Il y a peut-être des charters pour aller au mont Sinaï. Mais il n'y a pas de juif qui s'intéresse à aller au mont Sinaï. Pourtant, si on essaie de voir ce qui pourrait être important pour le judaïsme, commence par le commencement. Ça ne s'intéresse pas à ça. Vous allez me dire, les vestiges qui existent en Israël, la notion de relique, la notion de sainteté dans une matière, c'est une chose qui n'intéresse pas du tout le peuple juif. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a dit avoir trouvé où sont cachés tous les ustensiles du temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour des rabbins du monde entier. Pour leur demander ce qui était intéressant de les exhumer et où est-ce qu'il faudrait les mettre. La seule réponse qu'il a eue, laissez là où ils sont. Ça sert à quoi? Le judaïsme n'est pas attaché à la notion d'objet. Vous allez me dire, c'est le lieu où les patriarches ont vécu. Il n'y a pas de Villa Dolorosa chez nous. Vous allez me dire, c'est le lieu où ils sont enterrés. Ça ne donne pas de notion de Kedusha, ça. On n'a jamais vu que quelqu'un dit Tzéret Tzrel, c'est important parce que Avram est enterré, Yitzhak est enterré. L'attachement à la terre, c'est pas ça. C'est parce que la terre, c'est notre référence. C'est le point de jonction. C'est de là où part le peuple juif. Et même cette notion attachée à la terre, elle doit être soumise à une notion de Kedusha. C'est-à-dire que tant que le Beit HaMikdash n'est pas là, il manque quelque chose à cet attachement. Pourquoi ? Parce que le vrai attachement, la vraie valeur de la matière, c'est celle qui donne l'occasion à l'homme de se dépasser. C'est ça la notion que le peuple juif a d'Eretz Israël, c'est une notion de Kedusha. La référence du peuple juif, c'est Eretz Israël. Le lieu où il y avait le Beit HaMikdash, c'est Eretz Israël. Mais pas parce qu'il y avait le Beit HaMikdash, parce que tu vas trouver encore une pierre et encore une pierre. Parce qu'on est attaché à la notion de Kedusha. Enlever la notion de Kedusha, il ne reste plus d'attachement à Eretz Israël. Elle est pire que ça. Le peuple juif a toujours un complexe d'avoir été rejeté d'Eretz Israël. Parce que nous, nous disons dans la Amida de Moussaf, nous avons été exilés de notre pays à cause de Khatayenu, à cause de notre conduite. Et on a une cicatrice qui vient du fait que on n'est plus adapté à ce à quoi on devrait être adapté. C'est pour ça qu'on a été chassé. C'est ça qu'on a dit, va taquia, arrête cette rêve, la terre vous vomira. Que ça encore. Toute la notion de la procréation dans le couple fait appel à la notion de Kedusha. C'est une notion incompréhensible pour un non-juif. Parce que pour lui, c'est le contraire de la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Kedusha? C'est-à-dire qu'un homme peut pouvoir disposer d'éléments sans être victime de ces éléments. Kedusha, quand Rashi dit Perushim, séparé, c'est-à-dire que c'est toi qui disposes des choses et non pas les choses qui disposent de toi. C'est la notion de Kedusha. Chez le non-juif, la notion de Kedusha, elle s'oppose au mariage. Chez le juif, le mariage, on l'appelle Kiddushin. C'est le contraire. Parce qu'un juif doit pouvoir être maître même de son corps, même de sa jouissance, et en ça, il y a l'idée de la Kedusha, d'être maître des choses. Comment est-ce que j'arrive à comprendre qu'on puisse être maître des choses si on comprend que tout ce qui m'est donné, c'est donné à ma disposition, c'est donné Bishvil Israël pour qu'on en fasse quelque chose, mais pas que moi je fasse partie des choses. Moi je peux me voir comme un grain de sable, puis vous voyez à l'humanité, et puis à moi au milieu. Alors c'est vrai que je ne suis pas très très important. Mais Rachel dit le contraire. Ils disent, Chayav Adam, l'homme est obligé de dire, Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire, c'est présomptueux, le monde a été créé pour toi. Oui, ça a été créé pour moi. Parce que si je n'avais pas besoin de consommer, faites-vous une fois le compte. Quel est le chef d'entreprise qui fait travailler le plus de monde sur la planète? c'est le consommateur. Si un jour on lui montrait tout ce qu'il a consommé, il faudrait amener des wagons, des wagons, des wagons, des wagons. Quelqu'un, une fois calculé en mètres cubes, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est en millions de mètres cubes. Alors on se rend compte que c'est pour nous. Lorsqu'il y a marqué Bichul Israël, ça veut dire qu'il y a une certaine idée des choses qui doit être maître de la matière. On appelle ça la Kedusha. Ça, c'est la Kedusha du peuple juif. Ça qu'on dit, Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh, ou Kedoshim Bechol Yom, Yalelucha. Qui c'est les Kedoshim? Le peuple juif. Comment tu es tellement présent, tu es pour t'appeler Kadosh? Oui. Parce qu'à partir du moment où je suis maître de quelque chose, et j'utilise les choses, et non pas je suis utilisé par elles, alors je m'appelle Kadosh. Chaque fois que j'ai réussi à me situer au-dessus de l'événement, à me situer au-dessus du problème, il commence à avoir de la Kedusha. Maintenant, vous commencerez à comprendre pourquoi le roi qu'on appelle Kadosh, le Saint-Esprit. On va dire Esprit Saint, c'est plus saint. Parce que le point de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et moi, on a dit que c'est l'idée de création. Et celui qui a idée de création, il a idée de comprendre que ça a été créé pour Israël. Je ne sais pas si vous cernez bien, parce que ça va très très loin ça. On va essayer d'expliquer. C'est bizarre qu'il y ait une question qui est marquée dans la Torah à propos de la sortie d'Égypte et qu'on ne pose pas à Pessah le soir du Seder. Vous regardez dans la paracha de Vaetranan, il y a marqué ceci. Kisha'alna le yamim arishonim. Le minayom asher bara, tu vas demander le yamim arishonim, les premiers jours. Depuis le jour où Dieu a créé le ciel et la terre. Haniya kadabarazé. Est-ce qu'il a une fois existé une chose pareille? La kachat lo goy mikerev goy. Que Dieu a pris un peuple au milieu d'un peuple pour le sortir. Voilà la question. Sha'alna le yamim arishonim. Tu vas interroger les premiers jours. On ne voit pas que dans la Haggadah, on interroge les premiers jours. Tu vois pourquoi? Parce que la Gemara dans le traité de Chagig a dit, qu'est-ce que c'est Sha'alna le Yom Merishonim? C'est le Maase Bereshit. C'est qu'il y a deux choses qui font partie des secrets de la Torah. Maase Bereshit et Maase Merkava. Maase Bereshit, c'est la façon dont Dieu a créé le monde et qui est perceptible pour l'homme. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au rédacteur de la Mishnah, tout celui qui était versé dans l'étude de la Torah avait la force de créer des hommes. C'est pour ça que la Gemara nous raconte qu'Alexandre le Grand, lorsqu'il a rencontré le grand prêtre Shimon HaTzadik, il lui a dit, Yodéani, Sheakatan Shebachem, Yachol Leachiot Metim. Je sais que le plus petit d'entre vous, c'est faire revivre les morts. Nous, on appelle ça Maase Bereshit. L'étude de Maase Bereshit, elle doit se faire seule. L'étude de Maase Bereshit, ce n'est pas quelque chose qu'on partage, qu'on discute. C'est quelque chose qu'on étudie. Parce que ça dépend de la kedusha de la personne. Maintenant, on va arriver à ce problème-là. La Torah a ceci de différent des autres sciences, que même si je la comprends, pour l'utiliser, j'ai besoin qu'elle fasse partie de ma personne. On appelle ça la Kedusha. C'est pour ça que vous verrez à la fin des Pirkei Avot, c'est déjà marqué dans la Gemara, dans le traité d'Avodah Zara, dans la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair, que la Torah amène au Ruach HaKodesh, à la perception de choses qui sont imperceptibles par le commun. À l'action sur des choses qui sont inacceptables et imperceptibles par le commun. Tout ce que l'on raconte des Chachamim, les miracles, les ceci, les cela, ça vient simplement d'étudier la Torah, pas plus. Il n'y a pas de gymnastique spirituelle. Il y a une kedusha à avoir. C'est pour ça que le Maaseh Bereshit, il doit se faire tout seul. Maaseh Merkava, c'est l'étude. Merkava. Merkava, ça veut dire le trône divin. C'est la vision de deux prophètes, un qui s'appelle Isaïe et l'autre qui s'appelle Ézéchiel. La perception que l'on puisse avoir du mouvement de Dieu dans la création. La façon dont il se déplace, dont il gère les choses. Parce qu'on sait très bien qu'on a deux références vis-à-vis de Dieu. On a parlé de la référence vis-à-vis du Créateur, mais il n'y a pas seulement le Créateur, c'est lui qui gère. Il y en a qui vous diront, il a créé, il s'est arrêté de gérer. Ok. C'est de là, le Créateur et le gestionnaire, un c'est le Maaseh Bereshit, et l'autre c'est le Maaseh Merkava. C'est ce que nous appelons la Kabbalah, et qui ne s'étudie ou que à deux, ou que tout seul. C'est comme ça que le Maharal de Prague nous explique pourquoi on n'en parle pas dans la Haggadah. Parce que la Gemara dans Haggadah nous dit Kishalna, on a parlé au singulier, Shalna. Pourquoi pas marquer Shaluna? Demandez. Shalna, tu dois demander tout seul le Maaseh Bereshit. Tu dois étudier l'histoire de Bereshit et tu vas retrouver exactement comment Dieu a créé le ciel, la terre et l'homme, et tu peux faire la même chose. C'est à ta disposition. Il n'y a pas de secret là-dedans. Seulement, c'est une chose que l'on doit pouvoir percevoir tout seul, parce que ça dépend de la façon dont on perçoit les choses. Plus on a de kedusha, plus on est maître des choses, et plus on les perçoit différemment. Si je me considère comme victime des choses et des événements, je n'ai aucun rapport avec le Maaseh Bereshit, puisque d'être Maaseh Bereshit, c'est d'être créateur et non pas victime, et non pas objet créé. À partir du moment où j'arrive à percevoir ça, c'est ce qui a marqué dans le verset She'alna le Yamim Arishonim, va interroger les premiers jours. La Gemara d'entrée de Rangeli, c'est ça le Maaseh Bereshit qu'on doit étudier tout seul, parce qu'il y a marqué She'alna au singulier. Il dit le Maharal de Prague, il dit c'est la raison pour laquelle on ne parle pas de cette question le soir du Seder. Parce que le soir du Seder, c'est fait pour parler, c'est fait pour s'interroger, pour être à plusieurs à poser des questions. Tout seul, ça ne marche pas. Attention maintenant. Ça veut dire que je ne peux comprendre ce que Dieu a fait en prenant le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte que par le Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que je vais comprendre dans ce Maaseh Bereshit? Ce qu'on a dit de Rashi au début de Bereshit. Pourquoi le monde a été créé? Bishvil Israël. Ça c'est l'instrument. Ça c'est le but. On a dit que ce n'est pas le but ultime, parce que le but ultime, c'est Dieu lui-même. Mais, on va dire que c'est le moyen ultime. C'est-à-dire que si on savait interroger l'histoire, si on savait interroger l'événement, on verrait que tout a un rapport avec le peuple juif. Il n'y a rien qui est étranger au peuple juif. Comment tu peux le savoir? She'alna le Yamim Arishonim, est-ce que tu as déjà vu? Est-ce qu'il est possible de concevoir une chose pareille? Que Dieu se façonne un peuple. La kachat logoy, mikerev goy. Il a pris un peuple au milieu d'un autre peuple. Là, c'est là où on a toujours vu que d'une civilisation émerge une autre civilisation. D'un peuple émerge un autre peuple. Le monde ne se mêle pas des choses. Ici, c'est mêlé. S'il s'est mêlé, ça veut dire que ça fait partie du but lui-même de l'humanité. Vous allez me dire, c'est très réductif. C'est tellement réductif que ça donne le sens et la proportion des choses. On va donner un exemple. Lorsque le premier train transsibérien a été mis en place. Alors à ce moment-là, il y avait un rave dans la ville de Brest-Litovsk en Lituanie, en Russie. Il a dit, en vérité, on va vous dire que c'est ce qui va favoriser les relations internationales. Peut-être que ça résoudra même le problème des Balkans. peut-être que ça va faire une grande Europe. Il dit, moi, je vous dis que ce n'est pas pour ça. La seule raison pour laquelle on a mis en place le Transsibérien, c'est pour que le Bachor Yeshiva de la Yeshiva de Volozhin, lorsque arrivent les vacances de Pessah, il puisse arriver à Moscou, parce que sinon, il n'a pas le temps d'arriver, il doit rester à la Yeshiva. On va dire, tu as vu à quoi tu réduis les choses? Bientôt on va nous dire que la bombe atomique, c'est un problème de synagogue. Comment est-ce qu'on peut réduire les choses à ce point? Mais on va poser la question inverse. La Mishnah, dans le traité de Sanhedrin qu'on a cité, elle nous dit « Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam » Un homme est obligé de dire « Pour moi, le monde a été créé. » Comment pour toi, le monde a été créé? Ben évidemment, pour qui le monde a été créé? Pour toi. Alors c'est vrai, pas le monde depuis la création du monde, puisqu'il y en a qui sont passés avant toi. Et pas tout le monde, parce que vous êtes plusieurs. Mais si tu regardes combien tu consommes, tu vas voir que tu es le plus grand employeur. Qui c'est qui est plus grand employeur que toi? Pire que ça encore. La Gemara nous dit, regardez la différence entre l'homme lorsqu'il a été chassé du Gan Eden et Adam Arishon. Adam au Gan Eden. Il est à partir du moment où on s'est mis à s'activer dans l'humanité. Adam Arishon recevait tout de la façon la plus facile. Mais il devait se faire lui-même ses vêtements, lui-même ses chaussures, il devait se soigner lui-même. Il était seul. Et c'est obligatoire qu'il soit seul dans le Gan Eden. Alors, maintenant, je suis devenu un chef d'entreprise. Pourquoi? Je me soigne, j'utilise un médecin. J'ai besoin de chaussures, j'utilise un cordonnier. J'ai besoin de vêtements, j'utilise un tailleur. Tu as tout à ta disposition. Adam a choisi de tout faire lui-même. C'est vrai qu'il avait tout à sa disposition. Il fallait tout faire soi-même. Regarde la différence. Attention. On y a gagné, on a perdu. Il est évident qu'à un côté, on y a perdu. Parce qu'on ne parle pas de la difficulté de tout faire soi-même. La preuve, vous ouvrez n'importe quel journal, on vous parle depuis des mois ou des années de la sécurité sociale. Donc ce n'est pas si simple d'appeler le médecin. Ça me coûte énormément d'argent. Si on fait le compte de tout ce qu'on met de côté. Parce que maintenant, on n'est plus seul. Parce que le système ne peut pas fonctionner. Moi, je n'ai pas mon médecin privé. Puis l'autre cotise pas du tout de la même façon que moi. Et puis, il y a l'injustice. Et comment on va faire? Et le déficit. Alors, on est à perdu parce que ça ne va pas aussi facilement qu'Adam Arishon. Mais on est à gagner énormément. Pourquoi? Parce que le fait de faire travailler tout le monde pour soi, c'est vrai qu'on travaille aussi pour les autres. Mais le fait de pouvoir faire travailler tout le monde pour soi, ça veut dire que on a à sa disposition une partie du monde, sans se déplacer, sans faire d'efforts, qui est tellement énorme, qu'on est obligé de réduire les choses. Moi, une fois, je me suis demandé, voilà, je vais faire le compte, je rentre dans ma voiture. Je suis multinational, pourquoi? Parce que les pièces de rechange, elles viennent de Corée. Mais la fabrication, elle est française. Le moteur, il vient d'Allemagne. Ma chemise, elle vient de Singapour. La cravate, elle est... Mais tu te rends compte? C'est le point de mire. Tu es l'objet de... On ne va pas dire du monde entier, mais c'est pas mal. Si on regarde en quantité de ce qu'on consomme, alors c'est encore plus grand. Combien est-ce qu'il faut de production d'arbres pendant la vie d'un homme pour qu'il puisse se nourrir? C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de dire que c'est réducteur, c'est parce que pour toi l'homme est petit. Mais si pour toi un homme c'est grand. Alors, non seulement c'est pas réducteur, mais c'est ça le but des choses. Bichul Israël, chez les créés. Tu veux dire pourquoi Israël? Parce que c'est Israël le point de jonction entre, on ne va pas dire seulement le monothéisme, mais l'idée de Dieu telle qu'elle doit être sur terre, elle ne peut passer que par le clan d'Israël. Personne ne peut dire qu'il aurait une perception de l'idée de Dieu sans qu'il soit passé par le peuple juif. Même si dans l'histoire, je ne sais pas le retracer exactement, mais c'est impossible. On le pose. À partir de quel moment je suis, moi, le point de jonction, à partir du moment où je vis dans la Kedusha? Parce que il y a deux façons de voir les choses. Je peux dire, tu te rends compte comment la vie est dure? On est obligé d'aller jusqu'à Singapour pour pouvoir avoir une chemise. On est obligé de... Mais on peut voir les choses de l'autre côté. Tu te rends compte? Il y a un type qui vit à Singapour grâce à moi. Si je ne consommais pas, il ne vivrait pas. On peut être victime des choses ou on peut être maître des choses. À partir du moment où je deviens maître des choses, c'est ça la kedusha du clan Israël. Le clan Israël en tant que victime, il n'a aucune kedusha. Lorsque le clan Israël, on le réduit à l'antisémitisme, à la galoute, au problème politique, il n'a aucune kedusha. Il est zéro. Lorsque le clan Israël, c'est le point de jonction entre Dieu et les hommes, alors il prend sa kedusha. C'est-à-dire que le petit juif, il a deux solutions. Ou il se dit, je suis une victime de l'humanité. Je serai toujours victime. Ou il se dit, finalement, tout le monde tourne autour de moi. Plus on va m'enfermer dans un ghetto, et plus ils auront besoin de moi. C'est deux façons de raisonner. Une, c'est une notion qui fait appel à la kedusha. J'ai une mission. Je suis quelqu'un. Je suis maître des choses. Je ne suis pas victime de mes pulsions, de mes instincts. Je suis le maître. Je les dirige. Et à l'autre façon, lui, on appelle ça la kedusha. Et on peut perdre cette kedusha. Ce qu'a marqué ici dans le verset. Ivra yafe dodi afnaim. Akadosh Baruch Hu se conduit envers le peuple juif d'une façon yafé. C'est-à-dire que tout ce qui fait ça rentre dans mes structures, j'arrive à l'apprécier. Mais apprécier dans le sens étymologique du terme. Afnaim. Agréable. Pourquoi? On ne va pas revenir dessus, mais sachez que chaque fois qu'on parlera de la valeur d'Akadosh Baruch Hu, on parlera toujours de la tchouva. Sachez-le. Parce qu'un homme sans tchouva n'a pas de possibilité de vivre. S'il n'existait pas la tchouva, personne ne pourrait exister. Parce qu'on ne gagne pas du premier coup. La tchouva, c'est la possibilité d'effacer tout ce qui ne nous plaît pas dans notre vie. Naïm, Rachid dit pourquoi? Parce que malgré les fautes, malgré la faute du Vaudor, malgré tout, il m'a demandé de construire d'abord le Mishkan dans le désert, le tabernacle dans le désert, et ensuite le Beth Amikdash. Malgré les fautes, malgré la difficulté, malgré tout ce qu'ils pensent de moi. Ça, c'est la notion de tchouva. Je ne peux pas avoir un rapport avec Akadosh Baruch Hu sans cette notion de tchouva. On a déjà dit souvent que c'est pour ça que dans les Shloshé Srimidot, lorsqu'on dit Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, au milieu on dit Emet. Emet n'a rien à voir avec le Naïm, avec tout ce qu'Akadosh Baruch Hu est gentil avec moi. Emet, ce serait le contraire. On dit non, c'est faux. Parce que Emet, c'est la notion de possibilité d'avoir tchouva. Akadosh Baruch Hu a promis que lorsqu'un homme revient de ce qu'il est, on efface tout. C'est ce Emet qui sous-tend tout ça. Ça, c'est une vérité. C'est une chose qui est stable dans le processus. Ça, il me le doit. Ça, ça existe. C'est mis ça dans la Torah. Ça fait partie, pas du Naïm. C'est pas que le bon Dieu, il veut bien être Rachum. Il veut bien être Hanouni. Il est Emet. Parce que le monde est basé là-dessus. Sans tchouva, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il a posé l'idée de tchouva. Lorsqu'on dit Naïm, ça veut dire que non seulement moi je trouve que ça marche bien, mais en plus, même quand je ne fais pas ce qu'il faut, j'arrive toujours à récupérer. Donc Dieu, ce n'est pas seulement que je trouve que ce qu'il fait par rapport à moi, ça colle bien, c'est dans mes structures, c'est beau, mais en plus, c'est Naïm, parce qu'il va à ma rencontre. Ça, c'est la notion de Naïm, de Imout, ça veut dire agréable. On goûte quelque chose. Afar senoura nanavola. Maintenant, il y a le problème du mot af. Vous savez que af en hébreu, ça veut dire même, de même. Mais af aussi, ça veut dire la colère. Lorsque l'on parle de la colère de Dieu, prendre. Lorsque moi je me mets en colère, c'est tout simplement parce que je ne me retrouve plus dans l'événement. Je ne sais pas comment je fonctionne. Je n'arrive plus à déterminer la conduite à avoir. Je n'arrive plus à fonctionner. Je suis pris dans quelque chose. La colère, c'est la fuite par rapport à cet événement-là. C'est pour ça que la Gemara dit, Kol HaKoes, tout celui qui se met en colère, Kol Mine Geinam Sholtot. Il est à la merci de l'enfer. Il y a plein de Geinam d'enfer qui sont cholettes sur lui. C'est-à-dire, il se met dans les mains de l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est la négation des choses. Tu es à l'extérieur. Si tu vois que tu es en colère et que tu cèdes à la colère, c'est que tu cèdes au fait que tu es en dehors. Tu ne fais plus partie de l'événement. Lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu est en colère, c'est la même chose. Sauf qu'il n'y a pas l'expression de la colère. Il y a le fait qu'il est en dehors de l'événement. Vous savez qu'on dit tous les jours dans l'Amida, lorsqu'on fait la Chazara, on dit la Kedusha, on dit que les gens soient alim zedze, ayem kom kodo. Même les anges n'arrivent pas à cerner l'idée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que même les anges n'arrivent pas à cerner l'idée de Dieu? Lorsque nous parlons des anges, on parle toujours d'une certaine vérité. D'une certaine expression, d'une certaine vérité. Il n'existe aucun raisonnement possible qui soit extérieur à Dieu et qui arrive à déterminer où est Dieu, qui est Dieu. Comment se manifeste Dieu? C'est au-dessus de nous. Ça qu'on dit dans la Kedusha. Mesharatav shualim zeedze ayem kankodo. Quelle est la réponse? Maléola, il remplit le monde. Ou alors, on dit Mekomo. C'est lui le lieu du monde et c'est pas à chercher dans quel lieu du monde il se situe. C'est-à-dire l'ange lui-même, que ça veut dire l'ange, l'idée la plus parfaite, l'expression la plus parfaite d'une vérité n'arrivera pas à cerner le Créateur. Bon. Une fois, on a demandé au Rabbi de Kotsk. Personne ne sait où se trouve Dieu. Alors la solution, c'est de dire qu'il se trouve partout. Et c'est le monde qui est son lieu, et ce n'est pas lui. Le contraire. C'est lui qui est le lieu du monde, et ce n'est pas le monde qui est son lieu. Ok. Elle dit, mais s'il est partout, alors quelle est notre place? Il y a la tentation qu'on peut appeler spinoziste, de dire, il est partout, moi je suis une partie du divin, tout est divin, il n'y a plus de critères, il n'y a plus de... Il a répondu autrement. Il a dit, c'est vrai que le monde est partout. Mais il ne force jamais à rentrer. Il est partout, on le laisse entrer. Chaque fois que tu vas lui faire de la place, il prend la place. Il est partout où tu veux bien le laisser entrer. Il n'est pas partout malgré toi. Attention parce que c'est un jeu de mots. Parce qu'ici, être, ça ne répond pas à la question. Où est-ce qu'il est? Ah, il est partout. J'ai dit, s'il est partout, c'est à toi de trouver qu'il est partout. Parce que lui, il n'a pas de problème où être. Il ne lui manque pas de place. Il est là où tu le mets. Il y a des moments où il est nulle part. C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Ah! Ça ne marche pas. Ça veut dire que l'homme ne le laisse rentrer nulle part. Maintenant, on va lire le verset. Incha yafedodi. Tu es beau, mon ami. Af naïm. Même naïm. Qu'est-ce que ça veut dire, même? même dans le camp où on ne te laisse pas entrer, où l'homme se conduit mal, où l'homme fait la vera, Afnaïm, tu vas à sa rencontre, même dans ce cas-là. Le même, c'est ça la colère. Même, ça veut dire, là où ça ne colle pas, Af Arsène Moranana. Même, il arrive à rentrer en Eretz Israël, dans le clan d'Israël, alors qu'il n'est pas parfait. Ce même, on appellera Af. C'est la notion d'inclusion, alors que ce n'est pas possible. Quand on dit en français même, ça veut dire qu'on ne s'attendrait pas à ce que ce soit, mais c'est quand même comme ça. C'est la notion de colère. Af. Il y a des moments où si on ne fait pas rentrer, il est nulle part. À partir du moment où il est nulle part, là on pourrait dire, ça veut dire qu'il s'arrête de gérer le monde. Ça veut dire que c'est à moi de l'introduire. Non, Af. Lui vient aussi à ma rencontre, même si je l'ai exclu. Korod Batenu Arazim, les poutres, les solives de notre maison Arazim. Erez, c'est le bois le plus fort. En vérité, c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que le bétamidage n'existe plus. C'est-à-dire que ce que tu construis, le lieu de rencontre entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, tu dis, il est fort, il est Arazim, il est... Mais... La seule force qui puisse détruire le Beth Amikdash, ce n'est pas une force extérieure. La seule force qui puisse détruire le peuple juif, ce n'est pas une force extérieure. La seule force qui puisse détruire ça, c'est le fait qu'on n'en ait plus besoin. Si le temple a été détruit, si nous, nous avons été exilés d'Eretz Israël, ce n'est pas de la faute des autres. Les autres, c'est l'instrument. C'est comme le chien. Vous le frappez avec un bâton, il mord le bâton. Mais c'est bête de s'en prendre un bâton. Il faut s'en prendre au maître. Le problème, Arsenu Ranana, pourquoi est-ce que ça veut dire c'est frais? Ça veut dire que le Bétamigdash lui permet et le peuple juif se renouvelle. C'est ça la notion de fertilité du peuple juif. Vous savez que le peuple juif n'a pas de notion de grandeur. Ki atem ha-me'at mikol ha'amim. Vous êtes les plus petits. En vérité, on justifie, mais c'est injustifiable, que ce sont les persécutions qui rendent le peuple juif petit. Parce que si on fait le compte, on devrait être des milliards et des milliards. C'est que le juif qui rend le peuple juif petit. C'est ceux qui quittent le peuple juif qui le rendent petit. Ce n'est pas les persécutions. Parce que les persécutions par rapport au nombre qui devrait être ceux du peuple juif, elles sont zéro. Ça ne veut rien dire. Donc c'est jamais la faute de l'autre. Ra'anan, la notion de fertilité, c'est la notion de tchouva. C'est la notion de possibilité de continuer. Afar senu ra'anana. Le Beth Amikdash est ce qui permet au peuple juif de continuer. La notion de tchouva, parce que le Beth Amikdash, c'est la notion de korban, le sacrifice. L'expiation, c'est-à-dire de se remettre, de recommencer les choses. C'est ce qui permet au peuple juif d'exister. La fertilité du peuple juif, Ra'anan, ça veut dire fertile, frais, qui se renouvelle. Cette notion-là, cette notion de fertilité, c'est celle qui fait que le peuple juif peut s'écrouler ou non. C'est ce qui est marqué ici. Korot batenu arazim. Le Beth Amikdash a été construit pour durer tout le temps. Il est arazim, c'est fort. Reitenu, on va voir, c'est l'intérieur. Korot, c'est les poutres, les solives, ce qui fait tenir l'édifice. Reit, c'est l'intérieur. C'est pour ça que dans certaines traductions, vous trouverez les lambris. Alors que ça n'a rien à voir avec les lambris. C'est un mot qui n'existe nulle part autre. Donc on peut traduire comment l'intérieur, l'ameublement, les lambris. les portes, les chaises, tout ce que vous voulez. Mais c'est l'intérieur. Berotim, c'est en cyprès. Mais le mot berotim, on l'a traduit cyprès parce que il y avait des cyprès. Mais en vérité, c'est pas le cyprès. La Gemara nous dit, berotim, c'est brit yam. Qu'est-ce que c'est brit yam? Brit, c'est l'alliance, yam de la mer. Il y avait, au temps du Beth Amikdash, dans le deuxième temple, des portes qui s'appelaient les portes de Nicanor. Monsieur Nicanor, c'est un monsieur qui avait fait le vœu de construire des portes immenses pour le Beth Amikdash. Et comme il n'y avait pas d'artisan qui était capable de le faire en Eretz Israël, il est allé à Alexandrie, en Égypte, pour faire ses portes. Et ces portes, il les a mis sur un bateau. Et pendant le voyage, il y a eu la tempête. Alors, les matelots lui ont dit, le bateau est trop lourd. On va mettre une porte à la mer. Ils ont mis la première porte à la mer. Lorsque la tempête continuait, ils ont dit, il faut mettre la deuxième porte à la mer. Il a dit, Atilouaïmi, si vous la jetez, alors jetez-moi d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il était aussi lourd que ses portes. Ça veut dire qu'il n'avait plus d'intérêt dans la vie si ce n'était ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la porte. La tempête s'est calmée. Et lorsqu'ils sont arrivés en vue de la terre d'Eretz Israël, la deuxième porte suivait le bateau. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Nicanor Naase Nes Bedal Totav a été fait un miracle avec ses portes. La Gemara explique, elle dit, c'est ce qui a marqué Reitenu Berotim Altikra Berotim et Latikra Britiam. Li Berit Yam. Brit, l'alliance, Yam de la mer, pour l'histoire de Nicanor. Normalement, ça peut paraître puéril. Pourquoi? Parce qu'une porte, ça se retrouve. La vie, ça se retrouve pas. On aurait dit, ménage tes effets. Mets pas tous tes yeux dans le même panier. C'est pas parce qu'on t'a pris une porte que tu vas en faire un malheur. Elle est importante, la porte, elle est extrêmement. Nous, ça nous semble puéril. Ce n'est pas si évident que ça. Il est possible que même si l'alakha ne le demande pas, il n'y a aucune alakha qui dit que si tu vas perdre une porte, alors il vaut mieux perdre la vie que perdre une porte. Ça n'est pas une notion alakhique. Mais c'est une notion de brit. Ça veut dire qu'il y a un moment où quelqu'un doit sentir. Et c'est pour ça que c'est relié avec une seule notion. Si un homme a l'impression d'être la victime des événements et qu'il est entraîné par le bon Dieu dans des événements qui n'ont aucun rapport avec lui, alors la notion de bride d'alliance est caduque. Si un homme a l'impression d'être maître des événements, bien qu'il ne sache pas, mais en tout cas que les événements sont soumis à lui, il peut tout doucement faire lui cette notion qui est que si j'ai décidé de faire telle et telle mitzvah, bien que la halakha ne me demande pas de sacrifier ma vie pour cette mitzvah, mais ça devient un non-sens de sacrifier cette mitzvah à ma vie. Parce qu'en fin de compte, c'est moi le maître de l'événement et c'est pas l'événement qui est mon maître. C'est-à-dire qu'il y a une notion dans la Torah qui est la notion de savoir. Est-ce que pour une mitzvah, on peut tout sacrifier et ne pense pas à demain? Parce que finalement, tu es maître des choses. Et même si, halakhiquement, ça n'est pas justifié, ça n'est pas exigé. Ou non, on doit faire des calculs tout le temps. Celui qui fait des calculs, c'est qu'il se voit toujours en tant que victime. Mais celui qui est maître, il peut se permettre de ne pas faire de calculs. Nicanor s'est dit, voilà, j'ai fait un éder, j'ai fait un vœu. J'ai fait construire ces portes-là. Moi, j'irai jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'à Alexandrie. J'irai jusqu'au bout. C'est pas la tempête qui va m'effrayer. J'irai jusqu'au bout. On retrouve, on n'a pas le temps maintenant, mais on retrouve dans plusieurs endroits cette notion-là. Attention que il y a des choses qui, bien que si, en calculant, elles sont injustifiables, mais le bride que chacun sent entre lui et Akadosh Baruch Hu fait qu'il y a quelques moments dans la vie où on a le droit d'aller jusqu'au bout, où ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, même si c'est quelque chose que par calcul, on pourrait trouver qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne calcule plus. Celui qui a une entreprise, il est capable de mettre son entreprise en danger pour une idée. Parce que c'est son entreprise. Lorsqu'il est victime, il est obligé de faire des calculs. Où est-ce qu'il va perdre le plus, où est-ce qu'il va perdre le moins? Alors il va perdre le moins. Ça ne veut pas dire que c'est interdit halakhiquement. La halakha ici, elle ne se mêle pas de ces choses-là. Elle ne se mêle pas de ça. Ça, c'est un droit pour un homme. Un homme peut dire, j'ai fait telle et telle chose, j'irai jusqu'au bout pour ça. Voilà. Si, mais il y a autre chose à faire dans la vie. Tu peux faire plus, tu peux faire moins. Non. J'ai le droit de me polariser sur une mitzvah, de ne pas penser au lendemain. C'est ça que la Gemara, dans le traité de Tanit, elle raconte l'histoire de celui que les Chachamim évitaient, parce que chaque fois qu'il rencontrait les Gabaï Tzedaka, ceux qui demandaient la Tzedaka, il donnait tout ce qu'il avait. C'est pas intelligent de donner tout ce que tu as. Tu donnes tout ce que tu as pour une cause, là, mais il y aura une autre cause, tu n'auras plus rien. Mais il y a certains cas dans la vie où je peux très bien tout donner pour une cause. Ah, de lendemain, il ne m'intéresse pas le lendemain. Puisque les choses sont faites pour moi, alors il y aura d'autres choses qui viendront demain. Je ne raisonne pas en employé, je ne raisonne pas en victime, je ne raisonne pas en objet utilisé, je raisonne en utilisateur. Il existe ce moussagla. À partir du moment où on le perd, c'est ce qui est marqué ici. Korot batenu arazim. Ça veut dire que les choses tiennent par elles-mêmes, mais elles doivent être sous-tendues par une idée de bride. Elles doivent être soutenues parce que Rachamim appelle la Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh, on le traduit mal en français, on le traduit par sacrifice. Le don de soi, l'abnégation. Mais c'est pas vrai. Je dis pourquoi. Parce qu'ici, le mot nefesh veut dire volonté. D'où est-ce qu'on le sait? Lorsque Abraham a discuté avec Ephron pour acheter la caverne de Marpella, il lui a dit « Im yesh et nafshecha » Otamo, s'il y a ta personne. Rashi traduit « Nafshecha rotsoncha » Pour moi, l'autre, il représente une volonté. C'est ça une personne. Quelqu'un à qui j'ai affaire, une volonté qui est extérieure à moi. Le mot nefesh qui veut dire personnalité, quelquefois il est mis à la place du mot volonté. Mesirut nefesh, ça veut dire limsor, céder, donner, ratson sa propre volonté, et faire passer une autre volonté devant ses propres volontés. Lorsqu'on parle de mesirut nefesh, on ne parle pas de sacrifice. On parle de faire passer la volonté du Créateur avant la mienne. C'est ce qu'on appelle mesirut nefesh. C'est ce qui fait tenir le Beit Hamikdash. C'est ce qui fait tenir, ce qui fait qu'il existe une relation entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Comment il peut exister cette relation? Rien que par ça. C'est que tu comprennes qu'il y a une autre volonté qui n'est pas la tienne et que tu puisses être soumis à cette volonté-là. Toute l'idée de la mitzvah, parce que mitzvah veut dire quoi? Ordre. C'est qu'il y a un certain ordre dans la création, il y a une certaine volonté et que tu ne trouveras ton compte que lorsque tu pourras être inséré dans cette volonté-là. De même qu'on le comprend très bien à tous les niveaux, de même on doit le comprendre aussi au niveau spirituel. Je ne peux trouver mon compte, la notion de Kedusha, c'est la notion de soumettre sa volonté à la volonté divine. C'est ce qu'on appelle être au-dessus de choses. Parce que si je n'ai pas une volonté divine qui est au-dessus, je n'ai pas besoin, moi, de m'écarter des choses, je n'ai pas besoin d'être maître des choses. Tu as besoin d'être maître des choses parce que c'est la volonté divine. Ça veut dire qu'en étant maître, tu es celui qui fait la volonté divine. En m'écartant des choses, en n'étant pas victime de l'événement, en n'étant pas victime du matériel, en arrivant à le surmonter, je rentre dans un ordre des choses et ma volonté à moi, elle est d'être attaché à la matière. Ma volonté à moi, mon ratson, si j'essaie de voir, c'est de passer ma vie de la façon la plus cool, la plus facile possible. Mais il y a des événements dans la vie qui me font rappeler qu'il y a une autre volonté qui est derrière moi, de se situer au niveau de cette volonté et non pas au niveau de la mienne. C'est en ça que je deviens maître des choses. C'est pour ça que le paradoxe, il est celui-ci. C'est que tu ne deviens maître des choses que si tu arrives à t'insérer dans un monde où il y a déjà un maître. Mais si tu n'arrives pas, alors de nouveau tu es victime. Donc on va aller dire plus que ça. Il n'y a que le serviteur qui soit maître. On peut dire autrement. On ne peut être maître que si on est au service d'une idée. Sinon, on est maître de rien du tout. Ce qui est marqué ici. Reitenu berotim. Ce qui est à l'intérieur du Betamigdash, berotim, c'est brit. Ça veut dire que le Betamigdash, il est meublé. Il a un sens que lorsqu'un homme sent qu'il y a une alliance entre Akadosh Baruch Hu et lui, qui fait qu'il peut être maître des choses, il n'a pas besoin d'être victime des choses. Lui, il a l'air d'être la victime. Aux yeux d'un tiers, il a été victime totale. Parce qu'on va lui dire, mais t'es fou, pour des portes. C'est quoi ta religion? Mais en fin de compte, c'est comme ça qu'il est le maître. C'est ça que la Mishnah dit, Nikanor, na senet belatotav. C'est ce que la Mishnah me raconte. La Mishnah n'est pas là pour raconter Mais elle veut donner, lorsqu'elle décrit le Beth Amikdash, elle veut montrer comment les choses se mettent en place à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est pour ça que la seule possibilité de destruction, le Beth Amikdash en soi, c'est ce qui a marqué Arazim, Berotim, c'est du fort. Alors comment est-ce qu'on peut détruire ce fort? Par du plus fort. Il n'y a pas plus fort. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le Erez? Erez, dans le langage des Chachamim, c'est le symbole de la force. Tu n'as pas plus fort, parce que sinon, on n'avait qu'à dire le plus fort. S'il y a plus fort, alors dis le plus fort. Donc c'est qu'on n'a pas trouvé plus fort que le RS. Alors qui c'est qui a pu détruire le RS? C'est le petit juif. Parce qu'il n'en a plus besoin, ça casse, ça s'en va. C'est la raison pour laquelle vous comprendrez ce qui a marqué dans le traité de Yerushalmi, dans le traité de Yuma, qu'au moment où le temple a commencé à flamber au temps des Romains, les Kohanim sont montés sur le toit, ils avaient fermé les portes à clé, et ils ont rendu les clés. Ils ont dit, jusqu'à maintenant, on était au service du temple. Maintenant, il y a une main qui est sortie du ciel et qui a pris les clés. Qu'est-ce que ça veut dire, une main sortie? Ça veut dire que c'est toi qui as rendu les clés. C'est vrai, tu n'es pas tout seul, il y a une main qui va te prendre les clés. Mais finalement, tu as rendu les clés. Et il faut savoir que de rendre les clés, c'est aussi une force. Parce qu'on aurait pu ne pas rendre les clés. On aurait pu dire, bon, ça ne marche pas à Yerushalayim. Où est-ce qu'on va aller? À Londres? À Paris? On va le faire là-bas. Il faut savoir rendre les clés. Qu'est-ce que ça veut dire rendre les clés? Je vais vous expliquer ça veut dire rendre les clés. Il existait en Russie une seule grande yeshiva. C'était la yeshiva de Vologine. C'est là-bas que se formaient tous les enseignants du peuple juif. Vers 1890, elle a été fermée par le tsar. Seulement le gouvernement russe n'est pas venu lui fermer. Parce que ça aurait été la révolution chez les juifs. Il est venu de façon beaucoup plus intelligente. Il lui a dit, vous voulez former des rabbins? Vous voulez les enseignants, vous voulez former. Eh bien, on va introduire le programme de l'université à l'Eshiva. Comme ça, vous allez former des gens beaucoup mieux. Il y a eu à ce moment-là une grande assemblée de tous les dignitaires du peuple juif. Il y en a qui disaient, il faut céder, ça va passer. Il y en a qui disaient, on va essayer de dire oui, on va faire non. Chacun a essayé de trouver son truc. Il y a peut-être un même qui a essayé de créer une chaire de judaïsme à Saint-Pétersbourg. C'est le un homme qui s'appelle le Beta Lévi. Il a dit, voilà, quand on ne peut plus faire les choses telles qu'elles doivent être faites, il faut avoir l'humilité de rendre les clés.